Je suis en train de regarder si Jacques Richard est parmi nous. Il n'est pas là. Donc c'était prévu que ce soit lui qui apporte ce matin le message, mais il y a 2 semaines de cela, il est tombé malade. Donc, pasteur Jean-Paul m'a demandé de le remplacer pour cette occasion, et je me réjouis de pouvoir le faire, mais j'espère que nous entendrons une autre fois notre frère Jacques, qui a souvent, chaque fois qu'il s'exprime, des paroles très pertinentes et très bonnes à entendre et à recevoir. J'aimerais donc continuer dans la suite de la série des prédications sur l'évangile de Luc et je vous invite à lire au chapitre 2 les versets 21 à 40. L'évangile de Luc. Luc 2, à partir du verset 21. « Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste, pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui avait été en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations. » Gloire pour ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soit révélé. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Penuel, de la tribu de Aser. Elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servait Dieu nuit et jour par les jeûnes, des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'elles eurent tout accompli, selon la loi du Seigneur, elles retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, de la grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La semaine dernière, dimanche dernier, la prédication portait sur la naissance de Jésus à l'occasion de Noël, de la fête de Noël. Aujourd'hui, donc, nous poursuivons ce récit qui porte sur la circoncision de Jésus le 8e jour et la présentation au temple le 40e jour. Pour le message de ce matin, j'ai fait le choix de ne pas commenter l'ensemble de notre texte, mais uniquement une parole, la parole prononcée par Siméon, au verset 32 de notre texte, et qui est aussi sur, comme titre du message, en disant de Jésus, concernant Jésus, lumière pour éclairer les nations. Habituellement, la prédication de la fin de l'année, comme Clément a fait déjà allusion, on essaie de la consacrer un peu au bilan, aux perspectives, rappeler les bienfaits du Seigneur, dire quelques mots de perspective pour l'année qui vient. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais simplement nous rappeler un message qui devient de plus en plus urgent d'annoncer, vu, hélas, les ténèbres qui ne cessent de couvrir notre monde. Jésus est lumière pour éclairer les nations. C'est ce message que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé, et très clairement, c'est ce message que l'Évangile nous donne de contempler, de voir en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce message que nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui et pendant tout le temps qui nous séparera du retour de notre Seigneur, de proclamer en tout lieu et en toutes circonstances. Christ, lumière pour éclairer tout homme qui se tourne vers lui, comme nous l'avons déjà lu dans certains passages que Clément nous a lus ce matin. Mais avant de me concentrer sur ce message principal que j'aimerais délivrer, je veux d'abord dire un mot sur la structure brève de notre texte, car c'est l'un des intérêts de ces prédications suivies, c'est d'avoir une structure globale de l'ensemble du passage. Dans notre texte, nous avons deux événements importants de la vie de Jésus. Ils sont importants dans la mesure où ils le placent. Ils placent notre Seigneur Jésus dans l'accomplissement de plans de Dieu. Le premier, c'est la circoncision de Jésus au huitième jour. Par la circoncision, Jésus intègre le peuple de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, comme tout enfant mâle en Israël. Et en même temps, il est intéressant de noter que Luc passe très rapidement sur la circoncision de Jésus. Il passe très rapidement sur cet événement, alors qu'il consacre une partie très importante sur la circoncision de Jean. C'est au chapitre 1, les versets 57 à 66. Cela peut se comprendre dans une certaine mesure où Jésus vient inaugurer une nouvelle alliance qui va viser non pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. En effet, il est normal que Luc consacre beaucoup de place, beaucoup de temps pour évoquer la circoncision du dernier prophète sous l'ancienne alliance, à savoir Jean-Baptiste. Et donc, il peut être aussi compréhensible que Luc passe rapidement sur la circoncision de Jésus, lui, qui vient inaugurer une nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, où la circoncision du cœur sera au centre de cette alliance, comme d'ailleurs elle a été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament, et en particulier le prophète Jérémie au chapitre 31. Après la circoncision au huitième jour, c'est la présentation de Jésus au 40e jour que Luc évoque dans notre texte. Et cette présentation au temple est aussi en réponse à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, comme Luc le rappelle au verset 23 de notre texte, et il cite Exode 13, où il est dit « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur ». C'est ce qui est rappelé par ce rite de présentation, c'est le rachat. Le rachat de tout premier-né d'Israël pour le service de Dieu. Jésus est présenté au temple donc comme premier-né israélite de sa famille pour appartenir au Seigneur et pour servir le Seigneur. Viennent ensuite deux témoins pour donner leur bénédiction à Jésus. D'abord Siméon, un homme qualifié de juste, pieux, et Anne, la prophétesse qui servait Dieu par des prières, des jeûnes et des prières. Après ces deux événements, ces deux rencontres, et ces deux rencontres, Joseph et Marie rentrent avec Jésus dans leur ville de Nazareth, en Galilée. Et notre texte termine par préciser que Jésus était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Après maintenant ce regard rapide, bref, revenons à présent aux paroles de Siméon au sujet de Jésus. Il est Jésus lumière pour éclairer les nations. Ce message que rappelle Siméon dans son cantique qu'il a composé, ce message a déjà été annoncé par les prophètes et en particulier par le prophète Isaïe. L'expression « lumière pour éclairer les nations » revient à deux reprises dans le livre d'Isaïe pour qualifier le serviteur du Seigneur, ce serviteur que le Seigneur allait envoyer pour sauver et Israël et les nations. D'abord, c'est au premier chant du serviteur du Seigneur, au chapitre 42 d'Isaïe, verset 6, où le Seigneur dit, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par la justice, je te prends par la main, je te protège et t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et dans le deuxième cantique du chant du serviteur du Seigneur, au chapitre 49 d'Isaïe, on a au verset 6, toujours, la même expression qui revient, où il dit « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Et d'ailleurs, c'est ce verset que Clément a mis dans son mail pour nous envoyer la feuille de culte. Dans ces deux chants du serviteur du Seigneur, comme dans les deux autres, en particulier le dernier, dans Isaïe 53, Israël ne sera pas le seul à bénéficier de l'œuvre du serviteur du Seigneur, mais aussi les nations seront au bénéfice, le reste des nations, ceux qui accepteront dans les nations de se tourner, d'accepter l'œuvre du Seigneur, seront aussi au bénéfice de l'œuvre de ce serviteur du Seigneur. Le prophète Isaïe annonce de la part du Seigneur que le Messie qui viendra sera la lumière et pour son peuple Israël, mais aussi pour les nations. L'image de la lumière employée ici pour évoquer la connaissance que les nations vont avoir du Seigneur grâce à l'œuvre de son Messie. C'est une action qui ne se limitera pas uniquement au peuple d'Israël, mais elle va bien au-delà. Elle touchera les nations, toutes les ethnies, et en d'autres termes, les païens. Le prophète Isaïe décrit la manière dont le Messie sera lumière pour les nations. Et il écrit dès le premier chant du serviteur du Seigneur, c'est-à-dire au chapitre 42, il écrit dès le premier chant que le Messie ouvrira les yeux des aveugles, libérera les captifs de leur prison, délivrera ceux qui sont dans les ténèbres. Isaïe, à vrai dire, a déjà annoncé cela bien avant le chapitre 42, bien avant les chants du serviteur du Seigneur. Il l'avait fait déjà dans ce qu'on appelle le livret de l'Emmanuel, Isaïe chapitre 7 à 12. Il y a de nombreux passages dans ce livret où que nous citons, que nous aimons citer à Noël, parce que justement, ils éclairent la naissance et la venue de notre Seigneur Jésus. Et les évangélistes reprennent ces textes pour nous dire qu'ils s'accomplissent dans la venue d'Emmanuel dans le monde. Un texte en particulier mérite d'être cité en lien avec notre sujet. Il se trouve à la fin du chapitre 8 et au début du chapitre 9, il dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon, le pays de Naphtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays, ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et un peu plus loin, Isaïe poursuit en disant « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le peuple qui marchait autrefois dans les ténèbres voit désormais une grande lumière grâce à l'enfant né, grâce au Fils donné. La grande lumière annoncée par Isaïe éclatera et dissipera toutes les ténèbres qui accablaient le peuple. Le salut annoncé allait chasser les ténèbres qui couvrent le monde et apporter la délivrance des angoisses, des détresses que les ténèbres n'ont cessé de semer dans le monde. Israël ne sera pas le seul à être au bénéfice de cette œuvre à venir, car il est question des nations ou encore des extrémités de la terre dans ces chants du serviteur du Seigneur. C'est une manière explicite de dire, déjà dans l'Ancien Testament, que l'œuvre du salut touchera bien au-delà d'Israël. Elle concernera également les nations, les païens. Ésaïe termine son livre en évoquant encore une fois de plus cette œuvre de salut à venir. Une œuvre de salut qu'il présente comme étant une libération, une délivrance, une libération de la prison et à nouveau un recouvrement de la vue. C'est ainsi qu'il écrit au chapitre 61 des paroles qui seront citées par notre Seigneur Jésus-Christ. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers des ténèbres la délivrance. » Le Messie annoncé par Ésaïe sera donc lumière pour Israël, pour les nations, pour tous ceux et celles qui acceptent de se tourner vers lui, de revenir à lui, de recevoir sa lumière. Lorsque Simeon prend l'enfant Jésus dans ses bras et rend grâce, il dit « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples et les lumières pour éclairer les nations. Il sera la gloire de ton peuple Israël. » Ce que Isaïe avait annoncé, Simeon le contemple dans l'enfant Jésus. Par la suite, Jésus se révèle en effet comme étant la lumière venue dans le monde. Et il le dit aux pharisiens, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Le thème de Jésus, lumière du monde, sera exploité d'une manière admirable par l'évangéliste Jean. Dans son évangile, comme dans ses épîtres d'ailleurs. Il commence son évangile et dès le début, dès le verset 6 de son évangile, il nous rapporte ce témoignage de Jean le Baptiste en disant « Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et qui sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, écrit Jean. Jésus-Christ, lumière du monde, donne à celui, à celle qui l'accepte, qui le reçoit, de devenir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette lumière n'est pas réservée uniquement aux descendants d'Abraham selon la chair, mais aussi elle éclaire bien au-delà toute frontière ethnique. Cette lumière est venue chez les siens, les Juifs, mais les siens ne l'ont pas reçue, au contraire, ils l'ont rejetée, ils ont préféré les ténèbres. Et au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus dit « Le jugement n'est autre que le rejet justement de cette lumière. Le jugement n'est autre que le rejet de cette lumière venue du ciel. » Pour le salut de quiconque croit en lui. » C'est le texte qui nous a été lu par Clément, mais je ne me priverai pas de le rappeler. Rappeler la parole de Dieu est toujours utile, ne serait-ce que pour l'intégrer et la laisser nous habiter. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que soient manifestes ses œuvres et que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3. En Jésus, lumière de Dieu s'est manifestée. En Jésus, la lumière de Dieu s'est révélée, s'est manifestée. Elle est venue éclairer tout ce qui se met à sa suite, car Dieu est lumière, écrit par la suite Jean, cette fois-ci dans son épître, sa première épître, car Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres, en lui de ténèbres. Jésus-Christ, lumière du monde en ce qu'il nous révèle, ce qui est Dieu, pleinement, parfaitement, il est l'unique. C'est en lui que la plénitude de la divinité a été révélée. Et les lumières du monde en ce qu'il nous révèle, qui est Dieu. C'est en lui seulement que l'être humain peut connaître le Dieu invisible. C'est uniquement en la personne de Jésus-Christ que nous pouvons connaître le Père, car personne n'a jamais vu le Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ n'a pas révélé le Père par une construction philosophique, intellectuelle, mais c'est par sa propre personne, car celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons connaître de Dieu est manifesté en Jésus-Christ, car il est l'expression parfaite, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il est l'expression parfaite de l'être de Dieu, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Jésus-Christ est lumière du monde en ce qu'il nous révèle aussi ce que l'homme doit être, ce que l'être humain doit être. Il nous éclaire sur nous aussi, il nous rend lucides sur l'être humain. Par son enseignement, par ses actes, par sa vie terrestre, Jésus nous révèle l'homme parfait. L'homme qui vit, qui marche selon la volonté de Dieu, selon le commandement de Dieu, en toutes circonstances. Dans les moments de joie, dans les moments de festin, comme le festin à Cana, Jean 2, dans les moments de détresse, comme face à la mort de son ami Lazare, ou sa propre mort, Jésus nous révèle l'homme parfait, celui qui doit être imité. En cela, voici une bonne résolution pour l'année à venir. C'est ainsi, Jésus est lumière du monde. Il nous révèle ce qui est Dieu, mais aussi ce que doit être l'être humain, ce que nous sommes appelés à être en Dieu. Cette lumière ne veut pas s'imposer, elle ne s'impose à personne d'ailleurs, elle veut être accueillie, elle veut être reçue volontairement, sans contrainte, elle veut être reçue avec un cœur sincère, un cœur humble. Ceux et celles qui reconnaissent cette lumière ne marcheront plus dans les ténèbres, et c'est Jésus qui le dit. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Après ce discours dans Jean 8, sur la lumière, Jean nous relate l'épisode d'un aveugle au chapitre 9. Juste après le chapitre 8, Jésus il dit « Je suis la lumière du monde ». Au chapitre 9, il nous relate l'histoire d'un aveugle, un homme né aveugle à qui Jésus rend la vue. Lorsque Jésus lui rend la vue, il lui permet de voir la lumière du jour. Jésus joint à son discours qui vient de délivrer l'action. Il donne la lumière à cet aveugle en lui rendant donc la vue. Mais en même temps, dans ce même chapitre, Jean nous fait découvrir les vrais aveugles. Il nous fait découvrir les vrais aveugles, ceux qui prétendent voir mais ne voient pas, à vrai dire, sont les pharisiens. Ces hommes qui ont du mal à croire en Jésus, qui ont du mal à recevoir cette lumière du monde, cette lumière venue du ciel pour éclairer les nations, Jésus leur dit, dans ce chapitre 9, au verset 39, « Moi, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui prétendent voir ne voient pas. » Jésus est la lumière des nations. C'est lui que les prophètes ont annoncé. C'est lui que l'Évangile nous révèle. C'est le message que je vous propose de nous rappeler jour après jour, que je vous propose de nous rappeler après, au huitième jour, après avoir célébré la fête de Noël. Jésus, lumière pour éclairer les nations, tel est le message que nous devons garder toujours pour nous, pour les autres. Que faire ? Que faire d'un tel message ? Il nous faut d'abord le recevoir pour nous-mêmes. Il nous faut nous questionner si nous sommes comme ces pharisiens qui pensent voir, mais à vrai dire, sont aveugles, ne voient rien. Ou bien, sommes-nous comme cet aveugle né qui reconnaît qu'il ne voit rien en dehors de la lumière du Christ, en loin de la lumière de Dieu, il ne voit rien et il demande au Seigneur, se prosterne devant le Seigneur et lui demande de lui faire grâce. Ceux qui marchent à la suite de Jésus sont éclairés par lui. Et c'est Jésus qui les déclare, « Vous êtes la lumière du monde » dans le serment sur la montagne. Il le dit à ses disciples. Ceux qui suivent Jésus ne deviennent pas enfants de lumière par leurs efforts religieux, par leur consécration, par autre chose que ce soit. Mais ils le deviennent parce qu'ils appartiennent à la lumière du monde, parce qu'ils appartiennent à Christ, parce qu'ils appartiennent à Jésus. Il ne s'agit pas donc ici d'un degré de sainteté ou de pureté qui fait que nous soyons devenus enfants de lumière, mais par le fait d'être simplement déclarés enfants de lumière par notre Seigneur lui-même. L'apôtre Paul rappelle cette réalité à plusieurs reprises pour les chrétiens en disant « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » C'est dans Éphésiens au chapitre 5. Il dira la même chose pour les Thessaloniques. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes les enfants de lumière, enfants de jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. » Thessaloniciens, la première épître au chapitre 5. À la conversion, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, c'est notre vie qui se transforme, qui change de direction et qui prend une nouvelle orientation. C'est notre vie tout entière qui est placée sous la lumière du Seigneur. C'est notre être, dans notre intimité qui est touché, c'est notre identité qui vient d'être redéfinie à la lumière de Christ, qui vient d'être redéfinie en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes les enfants de lumière. Et c'est en Christ lui-même, c'est en Christ que nous vivons dans cette lumière. Une fois que nous avons dit cela, c'est par la déclaration, c'est par notre appartenance, notre nouvelle identité que nous sommes enfants de lumière. Une fois que nous avons dit cela, il convient maintenant aussi de souligner les implications d'une telle appartenance, d'une telle identité. En d'autres termes, être déclaré enfant de lumière implique que nous marchions dans la lumière, sinon ça n'a pas de sens. Tous les textes que nous avons d'ailleurs, où nous sommes déclarés enfants de lumière ou lumière du monde que je viens de citer, sont suivis très rapidement par l'exhortation de marcher dans la lumière, ce qui est tout à fait logique. C'est le cas, par exemple, de la déclaration de Jésus, cette déclaration forte dans Matthieu 5. Elle est suivie par l'exhortation « Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Jésus appelle ses disciples à laisser la lumière qui est en eux, la lumière de Dieu, briller, se manifester. Il les appelle à se distinguer par leur comportement dû à leur nouvelle qualité, à leur qualité de disciple, à leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Cette distinction doit se manifester dans le cadre du serment sur la montagne de deux manières. La première est exprimée positivement. Jésus dit clairement à ses disciples qu'ils ne doivent pas faire comme, par exemple, briller dans les ténèbres, ou encore avoir une justice qui dépasse celle des pharisiens ou des scribes. La deuxième manière par laquelle les disciples doivent se distinguer des autres est exprimée négativement. Les disciples ne doivent pas faire comme les scribes et les pharisiens de leur époque, qui prient, qui jeûnent, qui font le monde, pour se faire remarquer dans la société et non pas pour le faire pour le Seigneur. Ils ne le font pas par amour pour le Seigneur et par amour pour le prochain, mais ils le font pour montrer qu'eux sont religieux, contrairement aux autres, notamment ces péagers. Les disciples ne doivent ni ressembler aux païens qui se livrent à leurs propres penchants, ni ressembler aux pharisiens, aux religieux de leur temps, qui sont davantage préoccupés par leurs apparences que par la volonté du Seigneur ou par le Seigneur lui-même et le prochain. L'expression de Jésus à ses disciples au chapitre 6, toujours dans ce serment sur la montagne, est lapidaire. Elle est lapidaire aussi bien vis-à-vis des païens que vis-à-vis de ces pharisiens, des religieux. Il leur dit, c'est simple, ne leur ressemblez pas. C'est au verset 8 du chapitre 6. C'est de cette manière que Jésus nous appelle à briller dans notre monde. C'est de cette manière que Jésus nous appelle à agir selon la volonté de Dieu et à nous détourner de ce qui attriste le cœur de notre Père dans les cieux. L'apôtre Paul donne des exhortations similaires lorsqu'il écrit aussi aux Éphésiens. Après leur avoir dit qu'ils sont lumière dans le Seigneur, il leur écrit aussitôt « Marchez comme des enfants de lumière, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Chapitre 5, à partir de verset 10. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière, c'est-à-dire à avoir des actes marqués par la bonté, par la justice, par la vérité. La méchanceté ne doit pas avoir le dernier mot dans ce que nous faisons, même dans les circonstances difficiles. Elle est tellement naturelle parfois de rendre le mal par le mal. Mais notre statut d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, d'enfant du Christ devrait nous pousser à manifester la bonté aussi souvent que possible, aussi souvent que cela nous est donné de le faire. C'est en agissant en enfant de lumière que nous pouvons laisser la lumière de Dieu se manifester dans notre vie pour la gloire de notre Dieu avant tout, mais aussi pour notre bien, pour le bien de l'Église et également pour le bien de notre monde, de notre société qui a tellement besoin. Il nous faut donc manifester notre nature d'enfant de lumière que nous sommes devenus en Jésus-Christ qui est lumière du monde. Jésus est lumière pour éclairer les nations. Tel est aussi le message que nous devons annoncer autour de nous. Après avoir été au bénéfice de ce message, nous devons l'annoncer à présent autour de nous. Lors de sa prédication à Antioche, l'apôtre Paul cite notre verset de Luc, la parole de Simeon. Il dit, le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut aux extrémités du monde. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où cette parole est citée dans sa totalité, où cette parole prononcée par Simeon, qui est une citation d'Ésaïe, est citée dans le Nouveau Testament, dans le reste du Nouveau Testament. Et ici, elle est citée pour être appliquée aux prédicateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour Paul, annoncer Jésus aux Juifs et aux non-Juifs, aux païens, c'est s'inscrire dans l'accomplissement de cette parole de Jésus, lumière du monde, pour éclairer les nations. Dans Luc, Simeon l'applique à Jésus. Ici, Paul l'applique à lui-même et aux prédicateurs de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que les prédicateurs de l'Évangile, les apôtres, mais à la suite de ceux qui prêchent l'Évangile, ne font que permettre aux autres d'avoir Christ comme lumière pour leur vie. La lumière, Christ comme lumière de leur vie, qui est Christ pour les éclairer dans leur marche. Les lumières qui illuminent nos villes, en particulier en ces périodes de fin d'année, de fête, doivent nous renvoyer d'une manière ou d'une autre à la lumière du monde, nous qui sommes au bénéfice d'une lumière qui est bien au-delà de toutes celles que nous pouvons contempler, même lorsqu'elles sont belles autour de nous. Cette période de Noël est très propice pour rappeler à nos amis, aux membres de la famille, qui ne sont pas encore éclairés par la vraie lumière, qui se contentent des lumières de ce monde, qui sont bonnes certes, mais restent bien limitées. Et les gens de la galerie vous le diront en plus. En cette période de Noël, il convient de rappeler à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore le Christ, combien ils peuvent être éclairés par une lumière qui va bien au-delà de ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Elle est propice pour rappeler que Christ est lumière du monde. Voilà pourquoi Je voulais rappeler ce message aussi pour nous, mais également pour ceux qui nous entourent. J'aimerais nous encourager à ne jamais oublier ces gens-là qui nous entourent, qui ne sont pas encore éclairés, qui ne marchent pas encore à la lumière du Christ, mais qui t'attendent et qui marchent dans les ténèbres, dans l'aveuglement spirituel, et les inviter, les aider, bien sûr dans la prière, mais les aider concrètement pour s'approcher, recevoir la lumière du Christ. C'est parmi nous l'un ou l'autre et de passage et qui n'est pas encore au bénéfice de cette lumière du Christ. J'aimerais vous encourager vivement à prendre comme résolution pour cette nouvelle année à chercher de quelle est cette lumière dont l'Évangile parle, qui est ce Christ qui éclaire et qui illumine. Il illumine le chemin, mais la pensée, le regard, la vision, c'est lui qui donne la vraie lumière, le vrai sens à tout ce qu'on peut vivre. C'est uniquement à sa lumière que vous pouvez marcher dans la lumière. Croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière, dès Jésus au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Jésus, lumière du monde, le message que j'aimerais nous laisser pour cette nouvelle année, pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. J'aimerais nous rappeler cette exhortation de notre Seigneur pour terminer. La lumière est encore pour peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Telle est la recommandation que le Seigneur nous laisse, que le Seigneur vous laisse pour cette nouvelle année. Que le Seigneur continue à nous éclairer à sa lumière chaque jour pour marcher davantage dans sa lumière, pour le laisser chasser nos ténèbres. Et elles sont encore trop nombreuses dans notre vie, hélas, de chrétiens. Mais la lumière qui brille ira jusqu'au bout, illuminera les recoins les plus éloignés, les zones les plus ténébreuses de notre pensée, de nos paroles, de nos actes. Amen.